Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Loisir, des conseils pour votre congé de fin de semaine, culture, cuisine, jardinage, déco, activité physique pour passer le meilleur week-end possible, et nous vous donnerons des clés pour décorer et harmoniser votre intérieur selon les principes du Feng Shui en compagnie de Billy Blanket et de Caroline Watley. Notre chef Grégory Cohen vous fera fondre de plaisir avec une ratatouille de saison. La journaliste Christine Lapelle-Edouard vous recommandera deux livres réconfortants pour le week-end. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Père d'un petit Joseph depuis la semaine dernière. Félicitations.
Merci.
Alors dans 18 ans, votre petit dernier sera concerné par votre chronique.
Et oui, cette semaine, hier donc, c'était l'arrivée du Beaujolais Nouveau. Alors petite question, quelle vérité y a-t-il dans le Beaujolais Nouveau?
Ça sent la banane.
Bonjour.
C'est pareil.
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Votre chronique, c'est l'ami du vendredi, un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié.
Oui, absolument. Alors c'est une jeune femme qui s'appelle Bébé, mais comme elle met de l'arsenic dans le café, disons que c'est pas très infantile comme personnage.
Bonjour Maïa Mazorette.
Salut Ali.
La chroniqueuse qui ne supporte pas que je la vouvoie pendant sa chronique. Il faudra d'ailleurs que tu fasses un jour une chronique sur les vertus aphrodisiaques du vouvoiement pendant l'amour. Hein.
Avec plaisir. Ah.
Quel est le menu de ta chronique?
Eh bien, on va habiter notre sexualité, on va la décorer, on va la meubler. Je ne sais pas si ce sera de bon goût, je ne sais pas si ce sera feng shui, mais ça se tente.
Vous pouvez participer à notre émission. Dites-nous ce que vous faites pour être bien chez vous, même avec peu de moyens. 01 45 24 7000. Sans oublier de nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Bonjour Christine Lapelle-Edouard.
Bonjour Ali.
Alias Lady Crumble dans certains milieux spécialisés.
Oui, passons.
Co-autrice de la version poche de la revue Grand Bien Vous Fasse, La Puissance des Liens, disponible chez Pocket. Petit avant-goût de vos choix littéraires?
Alors, petit avant-goût, le livre...
Je vous réveille là.
Non, c'est d'un seul coup. Non, je vais tout vous dire. C'est le nom de l'auteur, parce que j'ai toujours tendance à me tromper. C'est Jacques-André Bertrand. J'ai tendance à dire Jacques-Alain Bertrand. Non, Jacques-André Bertrand, dernier cri, avec post-scriptum, des miscellanées dont je vous parlerai tout à l'heure.
Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rébéi.
Chef du restaurant éphémère Temporalité à Paris, entre le 20 novembre et le 11 décembre. Vous nous proposez ce matin une ratatouille.
Demain, hein, c'est ça.
Vous nous proposez ce matin une ratatouille un peu particulière.
Alors c'est une ratatouille d'hiver avec des légumes d'hiver. On a l'habitude de cette ratatouille qui nous donne du soleil plein les yeux. Là, on va avoir un petit peu différent, des couleurs d'automne. On va utiliser de la courge butternut. On va utiliser des châtaignes. Ça va être plutôt chouette.
Tiens, Grégory, Lucie vous demande comment réussir une mayonnaise maison à coup sûr. Et d'ailleurs, vous pouvez poser toutes vos questions à Grégory sur notre page Facebook. Alors, comment on réussit sa mayonnaise?
La mayonnaise, en fait, c'est vraiment le mariage normalement improbable parce que on va essayer de créer une émulsion entre de l'eau et de l'huile. Donc, en théorie, c'est pas possible. Sauf que notre jaune d'œuf, la mayonnaise, je rappelle, c'est jaune d'œuf, de l'huile neutre. On met pas d'huile d'olive parce que l'huile d'olive va être plus rance, parce que la mayonnaise, l'émulsion va décupler les saveurs, du coup ça va pas être génial. Donc de l'huile neutre, un jaune d'œuf, on va mettre un petit peu de vinaigre pour créer un petit peu d'acidité, et de la moutarde. Alors le vinaigre, il est facultatif. Le jaune d'œuf, c'est 50% d'eau, 50% de jaune d'œuf, donc de lécithine, ce qui va nous permettre de faire cette émulsion. Ce qui est très important, c'est d'y aller tout doucement avec l'huile. En fait, le secret de la bonne mayonnaise, c'est de prendre son temps. Il faut remuer, alors on peut la faire à la fourchette ou au fouet, peu importe. On va garder à peu près le même rythme, c'est pas la peine de partir à toute vitesse et puis d'un seul coup d'être essoufflé, de s'arrêter. Mais simplement, ce qu'il faut, c'est faire couler un filet d'huile très, 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 avec parcimonie, de manière à permettre à l'émulsion de se faire. Si on commence à voir qu'on a raté sa mayonnaise, on rajoute un jaune d'œuf et on récupère sa mayonnaise, voilà.
Et il faut que les ingrédients soient à température?
Tous les ingrédients à température, et alors c'est un paradoxe, on dit à température et frais, ça veut dire que l'œuf doit être un œuf frais, évidemment. S'il commence à être un petit peu passé, la mayonnaise risque de ne pas fonctionner, puisqu'il aura, il aura moins d'eau, évidemment.
Thibaut?
Et c'est vraiment une hérésie de monter sa mayonnaise au mixeur? Parce que ça marche bien.
Alors,
au batteur, tu veux dire, au mixeur, à mon avis.
Ah, même avec le pied mixeur, là, ça va à toute vitesse.
Voilà. Eh ben, écoutez, en fait, voilà. Alors, c'est le truc de Thibaut de Saint-Maurice. On peut, maintenant, si on n'a pas de mixeur, si on n'a pas de batteur.
Vous pouvez aussi poser vos questions de cuisine à Thibaut, sur la page Facebook. Guillemette, sur...
Ah bah,
un tour de main pour réussir sa cuisine. Bah
oui, moi je suis d'accord, il faut y aller très doucement. Ce qui est chouette quand on a un enfant qui veut aussi apprendre à cuisiner, c'est lui qui verse l'huile très doucement pendant que vous battez. Voilà. Comme ça, vous faites une mayonnaise à deux, il sera très fier. Parce que comme dans une idée reçue veut qu'on loupe tout le temps sa mayo, de réussir une mayonnaise avec votre enfant, c'est vraiment une fierté, quoi. C'est comme faire une pâte à crêpes, c'est la même chose.
C'est la même chose.
Le message ce matin, faites de la mayonnaise avec vos enfants ou vos petits-enfants ce week-end. Allez, place au livre. Christina Pelédouel, rions un peu avec le nouveau livre de Jacques A. Bertrand, publié chez Mialet Barreau, Dernier cri avec post-scriptum. Alors j'ai commencé à le lire et c'est vraiment savoureux, surtout en ce moment.
Hein. Ah oui. Voilà, ce sont des miscellanées. Vous savez que j'adore cette forme de littérature. Je sais que vous aussi, vous aimez bien ça. Ces formes courtes où tout est mélangé, en fait, ce sont des petits morceaux que probablement Jacques André Bertrand a écrit au fil du temps, peut-être même sont des chroniques qu'il aurait publiées ici ou là. En tout cas, je voudrais vous dire un mot de qui il est, parce que c'est un personnage. Jacques André Bertrand, il est journaliste, il est écrivain, ça fait déjà très longtemps qu'il écrit. Il a une plume absolument remarquable et il a été un membre des Papous dans la tête. Ah, oui. Cette fameuse et célébrissime et merveilleuse émission de France Culture qui s'est arrêtée, hélas, en tout cas je dis hélas pour ma part, mais je suis pas la seule. En 2018, alors c'est dire le pédigré du bonhomme quand même, hein. Il en a sous la plume, comme on dit. Et franchement, son livre, c'est un trésor, voilà, c'est un trésor. Alors, moi j'aime bien les miscellanées, mais surtout ce qui le caractérise, c'est un, l'écriture formidable, il a un sens de la formule, un amour de la chute. J'y vois une grande filiation avec Alexandre Vialat, et je ne pense pas me tromper, je ne connais pas Jacques-André Bertrand, mais j'en suis quasi certaine. D'ailleurs, si un jour j'ai l'occasion de lui poser la question, je ne manquerai pas de vous communiquer la réponse. Donc vous voyez ce genre qui revient sur des choses extrêmement quotidiennes, parfois moins quotidiennes d'ailleurs, mais avec un regard, un humour et un léger décalage qui rendent la chronique irrésistible. Quoi. C'est vraiment irrésistible, c'est une régalade à savourer seule, ou à lire à haute voix, parce que les textes de Jacques-André Bertrand tiennent le coup, mais non seulement tiennent le coup, mais presque, il faudrait les lire à haute voix, donc les lire entre soi, ou les lire en famille. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'il est un brin misanthrope. Alors ça, c'est pas désagréable du tout, j'aime bien ce petit côté un peu grinçant, pas très agréable toujours, mais tellement irrésistible dans l'humour et dans la qualité de l'écriture. Je sais, je vais être courte. Une phrase, je vous promets que ça ne sera qu'une phrase. Le bébé, lui, est généralement vivant. Donc, spéciale dédicace pour Thibault. Ce sont ses couches qui sont synthétiques. Il pleure ou gémit pour un rien, un biberon froid ou trop chaud, une boîte à musique qui reproduit en boucle la mélodie du Sacre du Printemps ou de Meunier Tudor. Il jette par-dessus son biberon ses hochets et son zoo de peluche. Chien, chat, éléphant, baleine, et il préfère dormir le jour que la nuit. Voilà, ça vous donne un petit avant-goût de ce délice de Jacques-André Bertrand.
Jacques A. Bertrand, Dernier cri avec post-scriptum. C'est le conseil de Christine Lapelle-Edouel et c'est publié chez Mialet Barreau. Deuxième conseil qui va plaire à Grégory, le livre des petits plaisirs coupables de Benoît Sima. Et c'est publié aux Arènes.
Voilà, et on est tout à fait dans le même genre de littérature délicieuse et qu'on peut picorer. Moi, je vous recommande de prendre au hasard. Vous ouvrez au hasard et vous tombez toujours sur les petites merveilles. Et voilà, donc ce sont des petites chroniques. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver tout ce qui, à la fois, nous rend pas très fiers de nous, mais qu'on adore faire. Alors évidemment, il y en a pour tous les goûts. Là, je vous en ai trouvé quelques-uns. S'éterniser sur le trône, bon, ça c'est pas très joli, mais il y en a d'autres, médire d'autrui, c'est aussi un petit plaisir.
On fait pas ça, nous, à grand
Non, c'est pas notre genre, pas du tout notre genre. Il y en a vraiment pour tous les goûts, il y en a pour la gourmandise, la paresse, l'incivisme, enfin bon, voilà. Et donc, même genre, pas très correct, mais tellement agréable, mais tellement délicieux et tellement vengeur. Parce qu'en le lisant, on se dit « Ah oui, alors donc, moi aussi, je fais ça. » finalement, c'est pas si mal que ça.
Tiens, quels sont vos petits plaisirs coupables autour de la table, Grégory Cohen? Allez-y, allez-y.
Alors non, mais moi, j'avoue que j'ai un exutoire. C'est quand je suis dans ma voiture, vitre fermée, et d'un seul coup, je suis pris du syndrome Gilles de la Tourette. J'insulte, mais alors à tour de bras, joyeusement, ça me fait libérer. Alors rien de méchant, mais même pas contre quelqu'un en particulier. Mais j'aime bien ça. Je sors comme ça des choses. Voilà.
Maya. Ouais.
Les jeux vidéo, j'adore ça. Non mais c'est vrai. Tuer des gens à la chaîne. En ce moment, je brûle des monastères dans Assassin's Creed Valhalla. Et j'ai lu le bouquin Les petits plaisirs coupables dont Christina vient de parler. Il y a quand même beaucoup de sexe dedans, si je peux me permettre.
Il y en a pas mal. Il y en a pas mal.
Thibaut, petit plaisir coupable.
Allez, allez.
C'est compliqué.
Taper dans le plateau de fromage avant qu'il arrive. Avant qu'il arrive sur la table et en disant tiens c'est bizarre, ils ont mis des petits morceaux cette fois-ci.
Là vous nous aviez révélé dans une précédente émission le fait que vous piquiez les solilesses du poulet que vous découpiez à la cuisine.
Mais c'est normal.
Non, c'est pas coupable, c'est le
paiement de la personne qui découpe.
Exactement, c'est pour la peine.
C'est un minimum. C'est,
bien sûr, mais pas du tout. Au contraire.
Tu l'offres les solilesses, c'est un acte de générosité absolue. Honteux.
Guillemette, petit plaisir coupable.
Oh, écoutez, parmi les nombreux plaisirs coupables, on parle pas d'alcool, on est bien d'accord.
Non, pas à cette heure-là.
Prendre des chansons françaises, mais alors ou pas françaises d'ailleurs, les plus ringardes possibles, mais les plus rythmées possibles, et danser de manière vraiment honteuse. Enfin, moi, j'ai pas honte, mais je pense que si on me voyait, ce serait vraiment compliqué.
Christina.
Oh là là, moi, j'ai un plaisir super, super coupable que j'ai honte d'avouer ici, mais tant pis, ça fait du bien. Moi, j'adore.
Allez-y, parce qu'il n'y a pas que Proust, Kafka et Kierkegaard dans la vie. Hein.
Alors, moi, j'adore regarder. Tenez-vous bien, marié au premier regard. Vous voyez ce que c'est? Oh, mais j'adore! Je me roule dedans, si j'ose dire. C'est un délice de voir ce qui va. Alors, on peut imaginer ce qui va se passer. Tel couple va se casser la figure en moins de deux. Elle est atroce. Elle va l'emmerder. Pas possible. Voilà.
Le coming out de Christina Pelédouette. Bon, je vais vous révéler mon petit plaisir coupable. Ben, moi, c'est de regarder Wheeler Dealer sur RMC Découverte, par exemple. Voilà. C'est un vrai plaisir coupable.
Il y a du shopping. Révèle,
voilà.
Pas mal.
Ben voilà, donc c'est les petits plaisirs, le livre des petits plaisirs coupables de Benoît Sima, et c'est publié aux Arènes. Alors j'aimerais qu'on accueille au téléphone Yolaine de Chanot. Bonjour Yolaine de Chanot.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Vous êtes rédactrice en chef du Parisien Week-end, 8e édition du prix littéraire du Parisien Week-end, Le prix d'une vie, en lice cette année 5 récits qui retracent le destin hors du commun d'un personnage célèbre ou anonyme. Et le vainqueur, c'est une femme, c'est une romancière, ça s'appelle La Dame couchée de Sandra Van Bremersch au Seuil. J'ai adoré, et vous aussi je crois Yolaine de Chanois, la narratrice raconte 20 ans aux côtés de Lucette Destouches, la veuve de Céline, morte à l'âge de 107 ans, 20 ans en qualité d'assistante de vie. Ça se passe à Meudon, dans une maison ogresse qui avale ses occupants qui veulent, ou ses invités qui veulent absolument rencontrer la légende Lucette Destouches. Alors c'est un roman sensoriel, cruel, drôle, au style vif. Et vous avez adoré aussi, hein, donc Yolaine de Chanot.
Ah oui, là je dois dire, cette année, Le Parisien Week-end, c'est un roman très singulier, et vous le disiez, très sensoriel, parce qu'on a toute cette poussière, même cette crasse parfois, qui est tout à fait bien décrite par Sandra Van Bremersch. Et ce qui est très intéressant avec ce roman, c'est que donc elle retrace la vie de Lucette Destouches, qui était ancienne danseuse, l'épouse d'un écrivain aussi adoré que haï, culte que sulfureux, et elle ne retrace pas le parcours de la veuve de Céline. Elle raconte en fait ses 20 dernières années. Il faut savoir que Lucette Destouches est décédée à 107 ans. Sandra Van Bremersch a pris ce job par hasard. Elle était doctorante en sciences de l'art. C'est un job d'étudiant pour elle. En fait, elle a été happée par cette maison mythique et fantomatique de Meudon. Elle est restée. Elle dit que c'était un travail, elle dit et elle écrit que c'est un travail de boniche, puisqu'assistante de vie d'une dame très vieillissante. Elle a assisté à ce bal, cette cour, ces gens, cette mala en fait, qui ne cessait de circuler dans Meudon, les poulets qu'il fallait préparer pour des dîners. Elle dit elle-même qu'elle n'a pas pu ouvrir de livres de Céline pendant ces 20 années, tellement il était présent, tellement son fantôme était présent dans cette maison. Et en fait, on a tous adoré au sein du jury, Ali, vous aussi, je crois, ce livre qui est très sensible, on l'a dit, très sensoriel, qui tombe jamais dans la sensiblerie et qui, en fait, raconte le très, très grand âge. Ouais. Et en cela, il est très moderne parce que ce sont des problématiques. Je pense que c'est peut-être ça qui a fait aussi basculer le jury en sa faveur. C'est que ce sont des problématiques auxquelles on est tous confrontés. Mmh. Et elle décrit cet âge, ce très, très grand âge qui arrive à la veuve Céline.
La Dame couchée de Sandra Vambremersch s'est publiée au Seuil et ce roman vient de remporter le prix d'une vie du Parisien Week-end. Merci beaucoup Yolaine Dechaneau. Allez, il est temps de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Odissino, qui mérite notre amitié cette semaine?
Alors, cher Ali, chères auditrices et auditeurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais rien ne m'agace plus que les idées reçues. Surtout quand il s'agit du couple. Dans son essai « Réinventer l'amour », Mona Chollet pose la question du conditionnement social qui persuade les hommes que tout leur est dû, tout en valorisant l'abnégation chez les femmes. Les femmes qui auraient tendance à survaloriser l'amour, quand les hommes, eux, lui accorderaient plus difficilement une place centrale dans leur vie. Eh bien, un romancier décortiquait déjà ce thème en 1942, et pas n'importe lequel.
Ben oui.
Georges Simenon, souvent taxé, encore une idée reçue peut-être, de misogynie, peut-être à cause de la blanquette de Madame Maigret, mais qui n'a en fait cessé de mettre la femme au cœur de son œuvre. Comme donc, en 1942, année de publication de La vérité sur Bébé Donge, si frappant de modernité et de justesse psychologique. Mon ami bébé. Ah non, pardon, je fais comme ses proches, je l'infantilise avec ce petit surnom, alors qu'elle se prénomme Eugénie. Eugénie n'était qu'une jeune fille quand elle a épousé François Donge, industriel d'une trentaine d'années qui a réussi dans la tannerie, le fromage et l'élevage de porc. Eugénie, cet être aérien, comme sorti d'un recueil de poésie avec ses robes pastel. Eugénie a cru à l'amour. Pendant des années, elle a tenté d'expliquer à François, elle a cherché à établir avec lui une réelle complicité. Mais non, François ne comprenait pas. De quoi se plaignait-elle enfin? Elle ne manquait de rien. Il lui avait même laissé entièrement redécorer la châtaigneraie, cette maison à la campagne où il passait tous les dimanches. Il avait des maîtresses, bah évidemment, puisque d'après lui, elle était mauvaise au lit et se contentait de subir. Et puis un dimanche comme un autre, écrit Simenon, lors d'une heure molle, Eugénie saupoudre le café de François d'arsenic. Sans haine, juste pour que cesse le manque d'amour. En fait, c'est sur ce dimanche et ce geste que commence le roman de Simenon. Et puis, avec François, la victime, entre la vie et la mort, qui se demande enfin si, après tout, bah ce n'est pas lui le coupable.
Et puis, il fallait que je trouve la vérité, puis que je te l'apporte. Pour moi, c'est une partie à gagner, tu comprends? Alors quand j'aurai tout gagné, on mettra les bouchées doubles, et tu verras. Tu verras comme on sera heureux. Je t'aime. Si tu savais comme je t'aime.
Si tu ne peux pas t'en empêcher.
Il n'y a que la mort qui puisse.
Je sais, je suis passée par là. Moi, c'est fini. Je ne t'aime plus.
Dans le roman, contrairement à la belle mais un peu infidèle adaptation d'Henri de Coin, on entend très peu Eugénie. Arrêtée puisqu'elle reconnaît son acte, on ne la devine qu'à travers des propos rapportés par sa sœur, son avocat ou le juge, et surtout François, devenu enquêteur de son couple, décidé à comprendre son épouse. C'est donc à distance, respectueuse, que l'on devient ami avec Eugénie, plus énigmatique qu'Emma Bovary, et qui, contrairement à Thérèse Desqueyroux, autre empoisonneuse, s'est mariée par amour. La vaporeuse Eugénie qui pensait que la seule force de ses battements de cœur ferait bouger les lignes d'un homme sans imagination. Le mystère d'Eugénie devenue lointaine et assassine parce qu'il fallait en arriver là et qu'elle n'a rien à ajouter.
Alors Guillemette, j'ai l'impression que François également mérite notre amitié.
Oui, grâce à Bébé, grâce à Eugénie, et il le sait. Au fil du livre, on s'incline devant cet homme qui n'était qu'un bon vivant, louant l'action, méprisant les sentiments, et qui finit par dire « pardon » et « je t'aime », même s'il a fallu qu'il passe par 10 lavages d'estomac. Voilà, c'est vraiment ce que j'appelle un homme qui se déconstruit. Alors, je me demande si Simenon emploierait ce verbe.
Je crois pas, non.
Déconstruire aujourd'hui. Mais pourquoi pas, Ali ? Quand on sait qu'il a déclaré « attention », formule qui tue, l'homme, c'est chez la femme que je l'ai trouvé.
L'ami du vendredi de Guillemette Dicineau, et vous pouvez lire la vérité sur Bébé Donge en poche chez Folio, et vous pouvez podcaster la chronique de Guillemette. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Alexia Rivière, Camille Poux-Jalaguier et Laura Laplot avec l'aide de Victorien Thomas. La réalisation était signée Claire Destacan. La programmation musicale, Valentine Chedebois. La technique cette semaine, le duo de choc, toujours aussi cool, Kevin Pelot et Pauline Laverdure, qui n'étaient pas nés l'année de la sortie du 45 tours de téléphone. Ça, c'est vraiment toi.
Bye.
Cohen, ça c'est vraiment toi avec un Grégory Cohen prêt à monter sur la table.
T'as refait toute la déco ?
Oui.
Mais ça veut dire quoi, je suis ?
Grand bien vous fasse.
Ça veut dire que là, je suis au pied du mur. Hein ? Et qu'un jour, je serai de l'autre côté. Bienvenue dans mon espace intérieur de vie.
Sur France Inter.
10h32, grand bien vous fasse loisir et des idées déco pour bien se sentir chez soi.
Le feng shui est essentiellement la position de l'humain au milieu de cet environnement. C'est pas abstrait. Lorsque l'architecte construit, souvent il construit des formes et l'humain vient à l'intérieur. Le feng shui a par priorité de mettre l'humain au centre de la forme. Il y a un grand architecte français qui s'appelle Wojcinski qui disait exactement ça. Si vous mettez pas l'humain au milieu de la forme, au milieu de ce qui est construit, vous faites une architecture matérialiste. Et donc les humains ne se sentent pas bien dedans. Dès que vous mettez l'homme au centre de la forme, automatiquement, les énergies, les fonctions, les organisations des pièces sont faites en pensant à comment va vivre l'humain au milieu de ses formes, c'est-à-dire de sa pièce, de son appartement, de sa chambre, où mettre son lit pour qu'il soit à l'aise, pour qu'il soit confortable.
Archivina avec le constructeur immobilier Paul Garbois en 1998. Bonjour Billy Blanquette.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste déco pour le magazine Elle. Bonjour Caroline Vatelet.
Bonjour Ali.
Vous êtes designer holistique formé à l'école Boulle et vous publiez aux chaînes un très très beau livre. Ça s'appelle Toi et moi, du décor de la maison au bien-être intérieur. Toi comme toiture, n'est-ce pas ? Caroline Vatelet, vous avez étudié le feng shui. Il est beaucoup question de feng shui dans votre livre. Dans Le Robert, le feng shui, c'est l'art de vivre d'inspiration japonaise qui cherche l'harmonie des rapports entre l'homme et son environnement. Quelle est votre définition du feng shui ?
Je dirais que le feng shui doit avant tout permettre aux personnes d'observer leur lieu de vie. Décorer sa maison va devenir une opportunité pour s'introspecter et éventuellement se réconcilier avec soi, puisque finalement la maison c'est une extension de nous-mêmes et en l'observant, en l'aimant et en la soignant, on va aussi se faire du bien et se connaître davantage.
Alors Billy Blanquette, on l'a vu depuis le début de la crise sanitaire, notre intérieur est devenu plus que jamais un refuge, une extension de nous-mêmes. Et quand on rentre chez quelqu'un, on découvre instantanément sa personnalité grâce à sa décoration et ce qu'il donne à voir.
Absolument. Et effectivement, moi, c'est vrai que je suis amenée souvent avec mon blog et pour les différents magazines avec qui je travaille à rentrer dans différents intérieurs. Et c'est vrai que c'est très marrant parce que surtout maintenant que j'ai fait ce livre avec Caroline, j'ai appris encore plus de choses et effectivement, il y a certains, je ne le dirai pas, mais je rentre dans certains intérieurs, je me dis waouh, il y a un petit peu de boulot là. Mais
Pourquoi on se sent mal dans certains intérieurs ? Qu'est-ce qui fait que, même si c'est plutôt a priori propre, bien décoré, etc., qu'est-ce qui fait qu'on se sent pas bien dans une maison, dans un appartement, dans un studio ?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, l'art ancestral du feng shui va nous faire travailler sur trois points principaux, c'est-à-dire la circulation du qi, qui est l'énergie vitale dans un lieu, et qui correspond aussi à l'énergie qui circule dans notre corps. Bah, comme notre maison, c'est un peu notre extension, on va essayer de recréer cette circulation et faire en sorte que l'énergie soit fluide, vivifiante pour notre santé. Ensuite, il y a le principe du yin et du yang, c'est-à-dire qu'il existe deux énergies, celle qui correspond au mouvement, au soleil, et qui va être à mettre principalement dans les pièces où on bouge, où on s'active, et l'énergie yin qui correspond à l'intériorité, la lune, la nuit, qui sera peut-être plus pour nos chambres, nos salles de méditation ou notre bureau à la maison. Et dernière chose, ce serait de retravailler aussi le cycle naturel des éléments, c'est-à-dire que dans notre société actuelle, on ressent tous qu'on a été complètement coupé de la nature, et on voit bien que d'ailleurs depuis le confinement, les gens ont envie de partir de Paris, de trouver des maisons dans les bois, auprès de la mer, etc.
Et quand donc, ils le peuvent.
Quand ils le peuvent, évidemment. Et ben justement, si on n'a pas cette chance de pouvoir sortir de Paris, c'est hyper important de recréer finalement ce qui nous nourrit quand on part en vacances, quand on va se balader dans la forêt, quand on se baigne dans la mer, et de réintégrer le bois, le feu, la terre, le métal, voilà, tout ça dans la décoration.
Alors vous parlez d'énergie, de chi, ça peut paraître un peu ésotérique pour certains auditeurs peut-être, mais c'est tout simplement l'âme d'une maison peut-être, Christy Lapelle-Edouel, vous qui écrivez en ce moment un livre consacré aux maisons, c'est... qu'est-ce qui fait l'âme d'une maison au fond ?
Je pense que ce sont les habitants qui font l'âme d'une maison. Voilà, c'est la manière dont la maison est occupée, dont elle est vécue, et dont les gens à l'intérieur de la maison circulent ou ne circulent pas.
Il y a des maisons où on se sent mal, des appartements où on se sent mal.
Mais c'est peut-être
on dit qu'ils n'ont, que souvent ils n'ont pas d'âme.
Ils n'ont pas d'âme. Hein. Mais
c'est la première phrase qui vient quand on dit oh, il y a cet appartement n'a pas d'âme.
Mais je pense que c'est peut-être aussi une question de vraiment de projection. Il y a des gens avec lesquels on ne se sent pas bien, et il y a des maisons dans lesquelles on ne se sent pas bien. Il y a une question de soi par rapport au lieu et par rapport aux gens qui habitent dedans.
Billy Blanquette.
Oui, après, c'est ce qu'on explique aussi. Une maison, elle peut... enfin, moi, ça m'est arrivé personnellement, mais une maison, elle peut être chargée de quelque chose qui a pu lui arriver, je pense. J'y crois assez, si, je pense. on peut être malheureux dans une maison et très heureux dans une autre. Et puis, effectivement, je pense que pourquoi on se sent bien dans une maison et plutôt que dans une autre, c'est, ça va être la manière aussi dont on va y être accueilli. Ça va être justement un il y a les habitants, bien évidemment, ça c'est évidemment c'est la base. Mais il faut qu'ils s'y sentent bien aussi les habitants. Et il faut que leur décor soit équilibré, qu'il y ait un équilibre des éléments, qu'il y ait un équilibre des couleurs, que ce soit accueillant, confortable. Je pense que tout ça, en fait, c'est un tout. En fait, tout ça, c'est ce dont on parle d'ailleurs dans le livre. C'est vraiment une globalité, quoi. C'est dans son ensemble.
Caroline Vatelet.
Oui, et puis je dirais que chaque maison a une mémoire. On parle de la mémoire des murs. On sait que, enfin, aujourd'hui, de plus en plus de recherches amènent à nous dire que tout est énergie et que tout est lié. Donc, forcément, quand on arrive dans un lieu, on va se connecter quelque part à l'histoire du lieu et ça va faire aussi écho à notre histoire à nous. Donc, voilà, c'est important de connaître un peu l'histoire des maisons, de s'y intéresser et de parfois faire ce qu'on appelle des purifications énergétiques des lieux pour peut-être un petit peu remettre la maison à notre diapason.
Guillemette Odissino.
Mais est-ce que tout bêtement, de manière plus triviale, est-ce qu'il y a des gens qui habitent un appartement ou une maison et qui en fait ne considèrent pas ces lieux comme des extensions d'eux-mêmes, considèrent juste que c'est l'endroit où on dort, on mange et on rentre, on sort, mais qui n'y voient pas. Qui ne l'habite pas, oui, au sens, disons, presque esthétique ou psychologique du terme.
Non, mais il y en a énormément. Et Caroline, enfin, on le raconte notamment dans, parce qu'on fait pas mal de, il y a des chapitres qui s'appellent, enfin, une rubrique de rencontres où Caroline a été justement donc à la rencontre de personnes chez qui elle a fait des diagnostics et par moments elle s'est retrouvée dans des endroits, notamment chez un monsieur qui n'avait dans son salon pas de canapé, pas de fauteuil, juste un bureau et qui disait « je comprends pas, j'arrête pas de bosser ». Bon, effectivement, il y a un petit problème.
Oui, ou on peut donner aussi l'exemple par rapport à l'entrée d'une maison qui est censée vous accueillir et être synonyme de joie. C'est-à-dire quand on arrive chez soi, on doit se dire « ah, ouf, ça y est, je suis à la maison, je suis bien, etc. » Et très souvent, l'entrée est une pièce qu'on va négliger, où on va entreposer un peu les sacs qu'on doit emmener à la cave, les cases de moto, etc. Et je me souviens également d'une personne qui m'avait consultée parce qu'elle se sentait pas très bien chez elle. Et quand on arrivait, voilà, son entrée, il y avait rien, quoi. Il y avait un fax, des cartons, etc. Et je suis allée chercher dans sa chambre des chapeaux de paille. On a mis un petit fauteuil pour qu'elle ait l'impression de pouvoir être accueillie. Et tout d'un coup, elle m'a dit, ah, j'ai l'impression d'arriver à l'île de Ré dans ma maison. Donc voilà, c'est pas forcément très compliqué. C'est juste se poser les bonnes questions et observer.
Alors,
sa maison.
Comment chouchouter son entrée, hein, même si on n'a pas de maison à l'île de Ré, même si on la vit dans un studio ou dans un petit appartement, quelles sont les questions à se poser pour savoir si on se sent bien dans son entrée ? Vous vous posez la question dans votre livre, page 33. Alors voilà une petite liste de questions, hein, qui peuvent nous aider à définir si on se sent bien dans son entrée. Puis-je ouvrir largement ma porte d'entrée, pénétrer sans encombre chez moi ? Mon entrée est-elle bien organisée et donc accueillante ? Quelle émotion, c'est très important, me traverse quand je passe la porte, est-ce que je ressens du plaisir, de la fatigue, du stress, ai-je envie de rester ou de repartir?
C'est vraiment ça, oui. C'est faut savoir si vraiment on est accueilli chez nous, si on a envie d'y rester. Ça peut paraître un petit peu banal de dire tout ça, mais vous allez vous rendre compte que en suivant un petit peu les clés qu'on a voulu donner avec Billy Blanquette, ça va être une découverte finalement de votre maison, et on a voulu montrer que la déco c'est autre chose que de choisir des meubles d'un point de vue esthétique, mais c'est aussi s'observer soi et voir un peu la place qu'on s'accorde dans cette maison, le confort qu'on s'accorde.
Quelle est l'organisation idéale dans l'entrée? Quelques conseils pour nos auditeurs pour bien organiser son entrée, Billy Blanquette?
De toute façon, enfin, je pense que, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas d'entrée. Moi, j'ai pas d'entrée. J'ai une maison, mais j'ai pas d'entrée. Ce qu'il faut, c'est essayer de créer, d'une manière ou d'une autre, un sas un peu de décompression. D'ailleurs, parmi les différentes interviews qu'on a fait de spécialistes, il y a Alberto Egger, qui est psychiatre, qui dit justement.
Psychanalyste.
Psychiatre et psychanalyste, et qui dit qu'il faut pouvoir s'arrêter et faire une transition, passer du monde extérieur à son monde intérieur. Et que, donc, il y a l'organisation idéale. Bon, si on a un petit sas, c'est d'avoir un endroit où se poser, où on peut...
Désencombrer,
voilà. Il faut désencombrer. Il ne faut pas que, déjà, on ait un obstacle en rentrant chez soi. Ce n'est pas accueillant. Il faut que ce soit un plaisir, c'est ce qu'on dit. Ça doit être synonyme de joie, l'entrée. Et puis, un endroit où poser ses manteaux. Idéalement, enfin, c'est compliqué. Pour ça, il ne faut pas vivre avec plein d'enfants et avoir des enfants qui
jettent. Et puis aussi, en feng shui, on dit que c'est la bouche du chi. Donc, c'est par là que l'énergie rentre. Oui. Donc, observez aussi ce qui se passe devant la porte, sur le palier.
Grégory.
Il y a deux grosses évolutions, je crois, aussi, dans les appartements. C'est la cuisine qui devient ouverte maintenant. Mmh. Et puis, depuis le confinement, la pièce de travail. Donc, quand on dit qu'on doit re-rentrer chez soi, on rentre chez soi, mais on rentre aussi pour partie dans un lieu de travail. Comment est-ce qu'on gère ça?
Alors le bureau effectivement ça a une révolution là pour tout le monde. C'est pas évident parce que effectivement faut faire la distinction entre le boulot et la vie perso, et c'est vrai que nous on donne quelques clés. Si on a une pièce, enfin si il y a un endroit dévolu pour l'installer, comment l'installer idéalement. Et si, comme beaucoup, on a son bureau dans sa chambre...
Comme beaucoup, voilà.
C'est de penser quand même, une fois qu'on a terminé de travailler, d'éteindre, de fermer et d'oublier. Parce que sinon, on a son ordi sous les yeux et on continue à...
Alors,
penser.
Passons au salon, le salon qui reste le cœur de la maison. Quelles questions doit-on se poser pour définir si on se sent bien dans son salon? Et puis, comment bien l'aménager pour y être à l'aise? Il faut le marteler, hein, une jolie déco, une atmosphère chaleureuse ne coûte pas forcément cher. Quelles questions il faut se poser dans le salon?
Déjà, savoir si tout le monde a sa place dans le salon, parce que parfois, il n'y a que deux places confortables, et puis le reste, c'est par terre, avec des petites chaises, etc. Et aussi se dire que c'est un endroit où toute la famille doit se retrouver, donc que ce soit assez ouvert. Très souvent, on arrive chez les personnes et le canapé bloque l'entrée du salon. Voilà, parce qu'on a l'habitude d'aligner nos fauteuils, notre canapé, etc. Mais essayer de faire en sorte que ça crée un peu comme un cercle et que l'énergie, justement, soit fluide, que tout le monde ait sa place et que ce
les
soit
gens
vraiment confortable. Pour que l'échange soit facile. Je me souviens d'une maison où j'avais une famille qui communiquait pas tellement, mais il y avait un canapé à gauche complètement du salon et les autres fauteuils à l'opposé. Donc forcément, ça favorise pas beaucoup la discussion.
Et ce qui est important, c'est de miser sur la bonne lumière.
Oui,
d'avoir différentes sources de lumière qu'on
à
allume selon le moment de la journée. C'est
et
très
selon
important.
Les énergies yin et yang, justement.
Ouais.
Donc,
Et même à la bonne hauteur, c'est aussi ce que disait Alberto Egger, c'est-à-dire que idéalement de chaque côté du canapé, parce que ça éclaire le visage aussi. Enfin, c'est des petites, c'est des toutes petites choses, mais effectivement, ça. Et puis c'est chaleureux.
Priscilla.
Et essayer autant que possible pour la lumière, les lumières artificielles, en tout cas, quand on n'a pas une bonne orientation, parce que ça joue énormément, d'éviter les lumières. Les éclairages
les
génitaux, ça c'est horreur, ça plombe tout,
et
ça glace
et froid,
tout, et plutôt des lampes posées que des lumières qui tombent du plafond, ou alors les deux.
Bon, au cours de la saison, il faudra revenir à Billy Blanquette et Caroline Vatelet pour nous parler de la salle de bain, de la cuisine, de la chambre ou des toilettes. Je recommande votre livre « Toi et moi » du décor de la maison au bien-être intérieur, c'est publié au Chêne. Il est temps de retrouver notre ami Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Mais oui, Guillemette, vous êtes aussi une amie. Bon, voilà.
Ah, mais je n'étais pas du tout vexée.
Ah, il y a compète, il y a compète.
Thibaut, ce matin, vous revenez sur l'arrivée hier du Beaujolais nouveau. Vous avez bien fêté, non?
Oui, je vais vous parler en général, hein, ouais. Pas forcément de moi.
Un bébé dans une main, une bouteille dans l'autre.
Voilà, c'est ça. Et donc, comme chaque année, effectivement, le Beaujolais nouveau envahit les cafés du coin et les entrées de supermarché le troisième jeudi de novembre avec donc des notes de banane, de cerise ou de girofle. Même parfois, il déclenche chaque année. Alors, des commentaires assez acerbe hein, de la part des amateurs de vin, et pourtant ça reste un monument, une grande de tradition de notre culture populaire.
The menu, please. Salad of tomatoes and a entrecôte bordelaise
avec du Coca-Cola.
Oh non, oui, Beaujolais nouveau. Very, very, very good, marvelous, wonderful, but very, very nouveau, hein.
Voilà. Donc vous l'avez entendu, hein, ce Beaujolais nouveau, very, very, very nouveau, dégusté ici par cet autre monument de notre culture populaire qu'est Louis de Funès, hein, dans l'aile ou la cuisse. Et donc même si Louis de Funès le trouve vraiment très nouveau, le plaisir de boire du Beaujolais nouveau est un plaisir bien réel. Mais si ce n'est pas un grand vin, du coup, question, à quoi tient ce plaisir? Eh bien, je crois précisément à un plaisir de la convivialité, du partage, à un plaisir du lien social et de l'échange. L'arrivée du Beaujolais, c'est l'occasion de se retrouver donc au café avec des amis, de prendre l'apéritif avec les collègues de travail ou d'arroser un peu plus que de coutume le repas du dimanche.
Et c'est donc symboliquement faire l'épreuve de ce qui nous lie.
Oui, exactement. Boire un petit vin à plusieurs, c'est l'occasion d'un échange qui est l'exact contraire de l'échange économique. Comme le remarque le grand ethnologue Claude Lévi-Strauss dans son livre « Les structures élémentaires de la parenté », la coutume veut que l'on ne se serve pas soi-même de vin, mais que ce soit le voisin qui remplisse notre verre. Et réciproquement, on prend la bouteille pour remplir le verre de son voisin. Un tel échange est économiquement stérile et absurde, parce que quel profit pourrait-il y avoir à laisser faire par autrui ce qu'on pourrait très bien faire tout seul? Le sens de cet échange est donc à trouver précisément dans la réciprocité qu'il implique. Parce qu'il est réciproque, cet échange est créateur de liens. Il manifeste ma dépendance aux autres en même temps que ma capacité à être en relation avec eux. Et en ce sens, donc, fêter l'arrivée du Beaujolais nouveau, eh bien, c'est prendre le temps de reconnaître les liens qui nous rassemblent.
Mais on boit toujours avec la modération qui s'impose. Hein.
Oui, et surtout qu'on est à la radio. Donc, avec modération. Parce que le vin, c'est aussi la possibilité de l'ivresse. Le vin enivre rapidement et conduit aussi rapidement celui qui le boit à perdre la maîtrise qu'il a de lui-même. Alors, pourquoi dit-on aussi, vous savez, in vino veritas, la vérité est dans le vin. Comment pourrait-il y avoir une vérité du vin alors même qu'il peut nous faire perdre la raison? On vient de le voir, la première vérité du vin, c'est la vérité des échanges sociaux qu'il révèle, mais il y en a une autre, liée justement, elle est plus subtile, à la possibilité de l'ivresse. Alors non pas, évidemment, l'ivresse pathologique de l'alcoolique ou l'ivresse excessive qui met notre vie et celle des autres en danger, mais plutôt la griserie du convive qui se laisse emporter porté par les quelques verres qu'il boit, et que cette fois, l'ami Nietzsche nous permet de penser sur le modèle de l'ivresse de l'artiste, du musicien ou du poète emporté par le rythme de leur création. Dans La naissance de la tragédie, Nietzsche pense l'ivresse sous l'égide de Dionysos, hein, le dieu de la vigne, comme l'horizon par lequel nous pouvons bousculer les idéaux d'ordre, de mesure et de cohérence qui structurent la réalité. L'ivresse, c'est donc le signe de la possibilité que nous avons tous, hein, chacun, d'excéder la réalité sociale et morale qui s'impose à nous, pour la réinventer. Voilà, c'est ça la vérité très paradoxale qu'il y a dans le vin et qui en constitue toute la tension philosophique. D'un côté, le vin crée de la convivialité et du lien social, c'est un peu l'huile de nos articulations sociales. Et de l'autre côté, le vin, par l'ivresse symbolique et non pas réelle qu'il procure, est aussi un moyen de bousculer nos préventions, notre timidité, nos conventions et d'inventer de nouvelles relations.
Et vous pouvez podcaster la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice avec un verre de Beaujolais nouveau, avec modération. Tiens, après le Beaujolais, le bien manger. Grégory Cohen, vous nous proposez ce matin une drôle de ratatouille. Hein
ouais, alors c'est une ratatouille d'hiver en fait.
Oui
qui est assez simple à faire. Elle est rapide. Alors c'est de la courge butternut. Moi je préfère la courge butternut, mais si on veut, on peut prendre du potimarron ou du potiron. 6 carottes, 6 pommes de terre, 300 grammes de châtaigne, 4 gousses d'ail, un oignon rouge, une échalote, des herbes aromatiques, alors du thym, du romarin, un filet d'huile d'olive et 30 grammes de beurre demi-sel. On va découper en cubes d'environ 1,5 cm les carottes, la courge ainsi que les pommes de terre. On va les mettre dans un panier à cuire à la vapeur. Alors ça va nous permettre de conserver tous les aliments, tous les nutriments, tout ce qui va être bien pour le corps, une sorte de recette un peu holistique. On va cuire ça pendant à peu près 20 minutes avec les châtaignes. On va hacher les oignons et les échalotes, dégermer l'ail, la hacher également, et puis on les fait revenir dans une poêle avec un peu de beurre et de l'huile. Ensuite, dans un récipient, on mélange les légumes pré-cuits à la vapeur, le beurre fondu, les échalotes, l'oignon, l'ail. On ajoute les herbes aromatiques. On place le tout dans un plat à gratin, au grill, dans le four pendant 10 minutes pour caraméliser le dessus de la ratatouille. Moi, je la déguste accompagnée d'un crottin de chèvre avec un petit peu de miel rôti au four. Et c'est bon pour la tête, bon pour le corps, bon pour la vie.
Eh bien, j'étais pas convaincu, Grégory Cohen. Eh bien, je vais la faire ce week-end, cette ratatouille de saison. Vous pouvez retrouver la recette sur le compte Instagram Grégory Cohen Off. Off avec
deux F.
Allez, on retrouve la chronique sexe de Maya Mazorette dans quelques instants, juste après Métronomie. Interprété Yoon Easy.
Bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux obséder par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je ne peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
Et c'est l'heure de la chronique sexe de Maya Mazorette. Maya, tu nous fais découvrir la déco bien-être du sexe.
Eh oui, ça me fait plaisir qu'on aborde enfin cette question, parce que côté déco du sexe, on a souvent plein de clichés qui nous viennent en tête. Une ambiance boudoir avec de la moquette rouge au sol et des miroirs au plafond, des voilages, des chandeliers, des dorures, une accumulation de cadres. Bref, le festival du kitsch. Or, que se passe-t-il quand on dépasse ces horribles stéréotypes ? Eh bien, rien du tout, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. L'esthétique sexe reste effectivement le croisement bizarre du XVIIIe siècle et du tuning automobile avec ses néons, sa moumoute et ses revêtements cuir. En comparant ces codes à ceux préconisés par nos invités, je me suis dit déjà qu'elle devait finir en PLS à chaque visite de club échangiste pour purifier les murs. Et deuxièmement, qu'elle pourrait sans doute nous aider à faire circuler plus d'énergie dans nos chambres et qui sait, dans nos sexualités.
Maya, tu as donc adapté leurs conseils à notre sexualité.
Ouais, et c'était pas simple, car la chambre idéale, on l'a entendu tout à l'heure, repose sur une énergie yin, centrée vers l'intériorité, pas trop de chi quand on est au lit, surtout pas de chi coupant, ni stagnant d'ailleurs, c'est écrit dans le bouquin. Existe donc le camailleux classique du sexe. Rouge, rose, violet, on choisit des couleurs froides. Nos invités recommandent une déco pas trop chargée. Existent aussi les photocoquines, les éventails, les bougies et autres plumeaux. Pas non plus de sextoy, il faut éviter les appareils électriques branchés trop près du lit. Pas de wifi, donc pas de film érotique avant d'aller se coucher. Pas de miroir, surtout en face du lit, car ai-je appris, les miroirs appartiennent à l'élément eau qui perturbe notre sommeil. C'est vrai que ce serait dommage. En fait, les règles de la déco sont tellement aux antipodes de l'érotisme que j'ai été prise d'un doute. A-t-on encore le droit d'avoir des orgasmes ou bien vont-ils désynchroniser les équilibres énergétiques et les ondes telluriques de la chambre? Bon, je vous rassure, il y a plein de super conseils qu'on peut appliquer. Par exemple, nos invités disent en interview que quand un décor est mal organisé, on va perdre une énergie folle chaque matin à trouver nos vêtements. Et ça, c'est pareil avec les amants. On en met un par pièce, pas plus. Et rappelez-vous des principes de Marie Kondo. Si vos amants ne vous font plus pétiller de joie, vous les remerciez et vous les jetez. Ou alors vous les donnez à une copine. Et oui, parce que les amants, ça se recycle. Il faut penser à l'environnement. Billy, vous dites être persuadé que les maisons ont une âme. Alors moi, c'est pareil avec les hommes. Je pense qu'ils ont une âme, j'en suis presque sûre. J'ai lu aussi qu'il fallait privilégier le confort à l'esthétisme. Ça aussi, c'est un super conseil sexo à appliquer au pénis, bien entendu, le confort avant tout. Enfin, vous évoquez le lien quasi charnel entre notre lieu de vie et nous. Et plus sérieusement, ce lien, il y a quand même quelques experts qui y travaillent.
Alors, tu recommandes quoi, Maya?
Eh ben, je vous recommande de jeter un œil au mobilier de la sexualité qui comprend des rampes triangulaires, des oreillers ergonomiques, des coussins demi-lune pour favoriser le confort pendant les rapports sexuels. Nos invités connaissent bien sûr la marque phare du marché, Libérateur, un peu cher, mais on peut se débrouiller aussi avec des coussins à mémoire de forme, ça marche très bien. Si vous aimez les jeux liquides, pensez aux draps imperméables, c'est la base, ça se trouve partout. Pour les jeux de cordes, c'est évidemment les poulies qu'il faudra installer au plafond et éventuellement les crochets aux angles du lit. Si votre truc c'est le BDSM, sachez que certains artisans bossent en toute discrétion pour venir installer dans des donjons dans vos appartements avec des cages, des croix de Saint-André, des chevaux d'arçon, bref, les basiques. Ajoutez à ça une ou deux chaises percées et hop, vous êtes prêts à recevoir des invités. N'oublions pas, enfin, côté soumission, la fornifilie, l'art de transformer nos partenaires en mobilier humain, en repose-pied, en guéridon, que sais-je, à condition bien sûr de ne pas les orienter vers le nord magnétique, sinon ça casse le chi. Tout cela est-il feng shui? Je ne sais pas, mais je sais qu'en sexualité, on a quand même toujours une astuce déco imparable. Si c'est trop moche, on éteint la lumière.
Vous n'avez pas vu la tête de Grégory quand vous avez évoqué les jeux liquides, hein. Merci Maya, une chronique
ça peut
à podcaster sur l'appli et le site de France Inter. Merci à toutes et à tous. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 9h30 dans l'émission Bel et Bien avec Agathe Le Caron, Christophe André et André Manoukian. Et lundi, on s'intéresse aux addictions du tabac aux écrans en passant par la nourriture et le sexe. Toutes vos questions d'ores et déjà sur l'appli France Inter.